voudrais vous raconter l'histoire du déni. C'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas voir ce qu'il a pourtant vu. Il est intelligent, très intelligent même. Mais son intelligence, il ne l'utilise que pour se mentir à lui-même. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Dédale, l'homme de tous les talents, ingénieur, sculpteur, l'inventeur de génies de la mythologie grecque, un des rares personnages d'ailleurs de cette mythologie à avoir véritablement existé. Souvenez-vous, chaque fois que son inventivité et son arrogance lui font faire n'importe quoi, il croit que la technique va pouvoir réparer le problème qu'elle a elle-même causé. Par exemple, il crée un monstre, le Minotaure, pour satisfaire la folie érotique d'une reine. Qu'à cela ne tienne, il inventera un labyrinthe pour enfermer le monstre. Autre exemple, il se retrouve lui-même enfermé avec son fils Icare dans le labyrinthe qu'il a créé. Qu'à cela ne tienne, il inventera des ailes artificielles faites de cire et de plumes pour s'échapper par les airs du labyrinthe. On connaît la suite, et cette suite est malheureusement une fin. Les ailes d'Icare ne résisteront pas à la chaleur du soleil, et Dédale verra son fils mourir sous ses yeux. Sa folie aura été de croire que la technique et la science sont autant la solution que le problème. Sa folie aura été sa fuite en avant, shootée à la science, dopée à la technique, à cet amour immodéré de la technologie que l'on nomme technophilie. C'est bien pratique, la technophilie, pour qui veut persister dans le déni. Mais ne jetons pas la pierre à Dédale, nous lui ressemblons tellement. Nous lui ressemblons lorsque nous disons, devant le réchauffement climatique, que nous trouverons bien des solutions, que de toute façon, nous habiterons l'espace quand notre Terre sera devenue inhabitable. Nous ressemblons à Dédale lorsque, devant la biodiversité en péril, voire déjà détruite, nous nous imaginons retrouver les génotypes des espèces disparues pour les faire revivre, les réinventer, les recréer. Nous ressemblons à Dédale chaque fois que nous utilisons notre intelligence pour nous mentir à nous-mêmes. Mais d'ailleurs, est-ce encore de l'intelligence ? L'intelligence, n'est-ce pas plutôt de réussir à voir, avoir le courage de la lucidité, plutôt que de tout faire pour ne pas vouloir voir ? Alors, comment faire ? Comment sortir du déni climatique ? Faut-il nous faire peur ? Mais la peur est-elle vraiment bonne conseillère ? Ne faut-il pas plutôt nous parler de plaisir et de beauté ? Du plaisir pris à l'action responsable, de la beauté du monde qu'il s'agit de sauver ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui connaît bien la beauté de ce monde et de ses océans pour les avoir sillonnés en tous sens sur son bateau. Isabelle Autissier, navigatrice, romancière, mais aussi présidente de WWF, le Fonds mondial pour la nature. Isabelle Autissier, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à la question que pose son dernier roman, « Comment sortir du déni ?»
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
Isabelle Autissier, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous avoir ici alors que vous allez bientôt repartir sur les mers et les mers froides, je crois. Et que vous avez sorti il y a peu ce roman d'anticipation, très sensible, Le naufrage de Venise, qui, je crois, nous raconte l'histoire du déni que nous vivons.
Complètement. Merci pour cette petite leçon sur Dédale et Icare. Ça m'a bien remis les idées en place. Je crois que ce petit papier introductif était très vrai. On ressemble tout à fait à ces personnages de la mythologie. Ça nous arrange hein, de penser que la science ou que je sais pas qui, un président particulièrement inspiré ou je ne sais qui va résoudre nos problèmes parce que on n'a pas trop envie de les résoudre nous-mêmes en fait.
Et ce qui est paradoxal, c'est que je dirais qu'il y a deux formes de déni. Il y a le déni de celui ou celle qui a vu, mais après ne veut plus voir. Et ça, c'est peut-être un déni qui est, on peut peut-être s'en sortir. Et puis il y a le déni au sens freudien, psychanalytique, où là, on n'est même pas conscient, en fait, qu'on est dans le déni. Vous pensez qu'on est dans lequel cas ?
Est-ce qu'on peut être un peu entre les deux ? Parce que je crois qu'il y a plein de choses qu'on voit, qu'on sait. Regardez la fameuse histoire des rapports du GIEC. Hein.
Oui.
Ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils nous rabâchent les oreilles, qu'ils nous font toutes les courbes, tous les chiffres, toutes les projections, qu'ils nous alertent. Il y en a plein les journaux, hein, en général, au moment où le rapport du GIEC sort. Et puis, ils ne se trompent pas, en plus. Hein.
Ouais.
Ce qu'ils ont raconté il y a 20 ans, ça se passe vraiment aujourd'hui. Donc, là, on voit bien quand même. On voit bien, mais je pense qu'on n'arrive pas à faire la marche d'après, qui est d'arriver à imaginer qu'est-ce que ça va faire dans nos petites vies
oui,
personnelles, en fait.
Voilà.
Et c'est là que se fait l'hiatus. On se dit, bon, bah, tant de degrés en plus, tant de millimètres en plus sur l'océan, tant d'espèces en moins, bon, d'accord, mais mon petit moi là-dedans... je m'en tirerais quand même. Hein.
Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que pour le coup, on ressemble pas à Dédale. Parce que Dédale, il l'imagine beaucoup. Et c'est comme si ce que vous nous dites, c'est que nous, on n'arrive pas à imaginer, en fait, les conséquences du réchauffement. Et donc, notre déni, finalement, plongerait ses racines dans un défaut d'imagination, en fait.
Absolument. Moi, je suis persuadée de ça. Je suis persuadée qu'on a un défaut terrible d'imagination. Et que je vais vous donner un tout petit exemple que j'aime bien, parce que l'année dernière, moi, j'habite La Rochelle, et il y a des élèves du lycée de La Rochelle qui sont venus me voir en me disant « Madame, on fait un travail, il faut qu'on imagine La Rochelle dans 100 ans.
Ouais. »
Ok. Du coup, on interviewe un certain nombre de gens. Donc, vous, comment vous voyez La Rochelle dans 100 ans? Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de leur dire, avec des passerelles au premier étage. Et là, j'ai vu que ces jeunes, ils m'ont regardé en se disant, mais elle débloque un peu, quoi. Mais pourtant, c'est écrit. Même si on arrêtait les gaz à effet de serre aujourd'hui, dans 100 ans, la mer aura monté d'un mètre, deux mètres, trois mètres, je sais pas, mais bien au-delà de toute façon que ce que le petit bord de quai à La Rochelle peut supporter.
Ouais.
Mais on n'arrive pas du tout à le mentaliser, quoi.
Ouais, c'est intéressant. C'est comme si on avait une digue mentale.
Oui, mais bon, bah après, je comprends, hein, ça. Ça nous arrange pas parce que ça nous fait peur, parce qu'on se dit que c'est des problèmes qu'on sait pas résoudre, parce que ça va nous obliger éventuellement à changer de vie, soit en le décidant, soit contraint et forté, et qu'on trouve que pour l'instant, jusqu'à présent, tout va bien, comme on dit.
Jusqu'ici, tout va bien, ouais.
Voilà. Donc il y a plein de bonnes raisons qui font que c'est pas confortable, quoi.
Je reprends l'expression de digue mentale pour la prendre au sens cette fois propre. Souvent, on veut construire des digues. À Venise, c'était l'idée. Alors, dans votre roman d'anticipation, ça y est, Venise est complètement cassée, débordée, ensevelie. À La Rochelle, où vous vivez aussi, je crois, il y a ce projet. Mais en fait, c'est complètement absurde de construire une digue. Ça veut dire qu'on n'a pas compris. Il me semble que l'idée, c'est pas de faire un barrage ou une barrière. C'est de laisser l'océan vivre et d'avoir de l'humilité, en fait.
Oui, alors ça, c'est intéressant et ça se rapporte un peu, ça revient un peu à l'histoire de Dédale et d'Icare. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on aura des solutions technologiques. Non pas que la technique va pas nous aider, que la science
Déjà, le rapport
aider.
Du GIEC, c'est quand même des savants
voilà.
qui, voilà.
Ça va sûrement beaucoup nous aider. Mais on s'imagine qu'on va trouver des solutions miracles contre la nature. C'est ça qui va pas. C'est que on est parti dans l'idée que Homo sapiens, on était tout puissant, on était au-dessus de tout ça, que on possédait et régentait, et que voilà, point barre, quoi. Et la nature, elle avait qu'à se mettre au carré et à faire ce qu'on lui disait de faire. Sauf que, je suis désolée, moi je suis un peu scientifique, la nature, c'est d'abord de la physique et de la chimie. Peut-être ça nous plaît pas, mais c'est comme
c'est
ça.
Des lois. Ouais.
C'est des lois qui, de toute façon, sont là et qu'on ne pourra pas changer. L'eau gèle à 0 degré. Bon, ça nous arrange pas, mais c'est comme ça. Voilà, il y a plein de choses. Je discutais l'autre jour avec le président du Muséum d'Histoire Naturelle. On parlait de, en ce moment, il y a des drames en Inde parce qu'il fait 50 degrés.
Ouais.
Et d'une manière un peu méchante, on disait à 55 degrés, les protéines coagulent. Donc à 55 degrés, les hommes cuisent, au vrai sens du terme, comme un œuf que vous mettez dans une friteuse, quoi. Donc ça, ça nous arrange pas, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Et
mais
on n'arrive pas à penser que nous faisons partie de la nature et que donc nous devons faire avec les lois de la nature.
Mais je vois deux problèmes quand je vous écoute. Le premier, c'est que est-ce que quand on a peur, on se met pas à mal penser ? Et on va en parler après. Mais le deuxième, c'est au fond. Toute notre histoire occidentale nous conduit à ne pas comprendre ce que vous dites. Quand vous avez parlé, en disant voilà la nature, on croit qu'on va la posséder, qu'on va la maîtriser, ça me rappelle évidemment la phrase de Descartes que vous connaissez, Descartes qui écrivait « Il faut que l'homme se rende comme maître et possesseur de la nature ». Alors, rendons justice à Descartes, le « comme » est important.
Absolument.
Mais simplement, dans l'idéologie occidentale, on a oublié le « comme ». Et on croit qu'on va être maître et possesseur de la nature. Si on remonte encore plus loin, faisons un peu d'histoire des idées. Pardonnez-moi, vous êtes sur la plage, je le sais, mais ça peut être intéressant quand même. Et très probablement, il y a un problème chrétien. C'est que la vision chrétienne du monde, dans la Bible, en fait, Dieu crée l'homme, et puis après, il crée les animaux et la nature pour l'homme. Comme si les animaux étaient des réservoirs de protéines, et la nature était son cadre de vie. Et d'ailleurs, il en reste le mot d'environnement, qui est en lui-même problématique. Parce que l'environnement, c'est ce qui est environnant, c'est ce qui est autour
c'est
de l'homme.
Autour, voilà. C'est un peu le décor, quoi.
Donc, on revient de loin. Et vous nous invitez à une forme d'humilité. Mais comment on va faire? Comment on peut se débarrasser de, en fait, de 2000 ans d'entrepôt, enfin, de 2000 ans de
mauvaise éducation? Oui, ça va être un peu compliqué.
Ça
va être un peu compliqué, mais enfin, les sociétés humaines, elles ont quand même évolué. C'est vrai, alors c'est même pas seulement, c'est toutes les religions du livre.
Oui, oui.
Et ça, un jour, il faudrait se demander pourquoi. Je suis pas assez savante pour répondre à cette question. Mais parce que on voit quand même que les sociétés polythéistes, elles discutaient avec la nature.
Bien sûr.
L'homme faisait partie de la nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il pouvait discuter d'égal à égal avec les plantes, avec les animaux, avec les étoiles, avec tout ce qu'on veut. Il était dedans. Il se constituait partie prenante. Et donc, forcément, il pouvait pas aller contre. À partir du moment où on se considère comme en dehors, c'est là que commence le problème. Et effectivement, quand il considère que Dieu vous a fabriqué spécialement en dehors de tout le reste, là, on commence à avoir un statut qui va finir par poser problème. Ça posait pas trop de problèmes au début, quand on n'était pas très nombreux, quand finalement, on impactait, mais on impactait d'abord, on n'était pas très nombreux à impacter, et puis notre impact individuel était extrêmement faible.
Bien sûr.
Tant que, voilà, on cultivait un petit champ, un truc, bon voilà, ça allait bien. Aujourd'hui, l'empreinte humaine, que ce soit empreinte carbone ou autre, ou l'empreinte environnementale, individuellement, elle est énorme, et puis en plus, on est très nombreux. Donc là, ça commence à coincer quand même.
Rendons quand même justice à un philosophe dans cette tradition occidentale qui n'a pas fait cette erreur-là, c'est Spinoza, qui justement s'oppose à Descartes. C'est comme si Descartes disait, voilà, dans la nature, il y a des lois, les animaux, les fleuves, ça. Et nous, les humains, on est à part, on a le libre arbitre et on est supérieur. Et Spinoza répond à Descartes, et c'est un peu ce que vous dites, avec une phrase géniale. Ça devrait être le mantra d'une écologie non punitive. L'homme n'est pas un empire dans l'empire.
Joli.
L'homme n'est pas un empire dans l'empire. Méditez bien ça en ce début de mois d'août. L'homme n'est pas un empire dans l'empire. Et donc la nature, pour Spinoza, la nature c'est Dieu, c'est le cosmos, c'est la même chose. Nous sommes dedans, nous sommes en Dieu comme nous sommes en la nature. Voilà, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même des penseurs qui peuvent nous aider, qui peuvent armer le bras de cette volonté par laquelle nous pourrions nous arracher au déni. Je reviens à l'autre question que je voulais vous poser, c'est la peur. On se dit, mais comment on fait pour prendre conscience? Et alors, on veut nous faire peur, nous dire que nos enfants ne pourront pas vivre, que les enfants de nos enfants vont cuire, comme vous le dites, que Aurélien Barraud, que vous devez connaître, il est très catastrophiste, il explique que c'est déjà presque trop tard. Mais le problème, c'est que philosophiquement et même psychologiquement, on n'a jamais bien réfléchi sous l'influence de la peur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de nous parler?
Oui, il y a une autre façon, bien sûr. Alors, la peur, quand même, elle nous fait quand même un peu bouger. Et puis, moi, je suis désolé, je suis pas catastrophiste, mais enfin, je vois quand même les graves difficultés pour pas être trop catastrophiste. On se prépare vraiment pas des lendemains qui chantent, hein. En tout cas, dans nos sociétés telles qu'elles sont organisées. Moi, je dis pas que l'être humain disparaîtra, mais je dis qu'il va quand même souffrir sacrément, ce qui est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est sûr, ça. C'est sûr que, voilà, ne serait-ce que, je reprends mon exemple de tout à l'heure, s'il faut que j'abandonne ma bonne ville de La Rochelle, ça va pas m'amuser. Ça va être un drame pour les gens qui habitent là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la ville, on va se balader en gondole, je sais pas ce qu'on va faire. Mais ça va pas être bien. Moi, je préférerais que pas. donc, la peur, quand même, à un moment donné, peut allumer une petite lumière, quand même, rouge, clignotante, qui nous dit, voilà, maintenant, faut commencer à se bouger, quoi. D'ailleurs, quand on regarde dans la nature, la peur, c'est un réflexe de survie aussi.
Bien sûr, c'est vrai.
Pour un certain nombre, pour une grande partie, d'ailleurs, des animaux. Ils ont peur, soit ils s'enfuient, soit ils combattent.
Alors, vous dites, on le voit. J'aimerais que vous nous racontiez ce que vous voyez lorsque vous naviguez, justement, parce que nous, on n'est pas là-bas. Hein. Lorsque vous naviguez au Groenland, sur les mers froides, vous êtes plutôt mer froide que mer chaude, j'ai cru comprendre. Et qu'est-ce que vous voyez de vos yeux de cette mutation climatique et écologique? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vous voyez?
Alors,
physiquement,
il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, par exemple, oui, moi je me balade beaucoup dans les endroits où il y a des glaciers, je peux vous dire que quasiment d'une année à l'autre, on voit que ça régresse. C'est-à-dire que c'est très violent, c'est très visible. On voit quasiment, quand on revient un peu dans les mêmes coins, à quelques années d'intervalle, on va voir que ça change un peu, les oiseaux, ça change un peu, les paysages, ça change. Donc, on voit bien sûr l'accumulation de plastique. Alors ça, c'est, c'est des poubelles, surtout les endroits froids, là, dans le Grand Nord, et les courants ramènent tout ça. On a beau être à 1000 km de toute habitation, c'est des vraies poubelles. Donc ça, c'est les choses
qu'on
voit.
Mais ça doit être incroyable de tomber sur cette poubelle de plastique.
Ça fait mal parce qu'on se dit que ces territoires, normalement, sont un peu les derniers degrés de la planète. Donc, normalement, ils sont à peu près vierges. En fait, il n'y a rien de vierge dans la nature. Enfin, en tout cas, de vierge de l'activité humaine.
Et là, on est en train de se parler. Il y a quand même 4 petites bouteilles en plastique sur le bureau.
Eh ben, justement, moi, je fais des campagnes et à chaque fois, je le redis. Merci France Inter d'arrêter les petites bouteilles. Je le dis souvent. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas compliqué. Hein,
non, mais ça veut quand même dire qu'on est dans le problème. C'est à qu'on en parle. On est
ça
d'accord.
Ça veut dire que là, on est franchement feignant. Je suis désolée. Ouais. J'aime beaucoup cette chaîne et cette radio, mais c'est franchement feignant de pas mettre des carafes. Et alors on me dit, oui, mais c'est un problème pour laver les carafes. Non, mais attendez, il y a bien quelqu'un qui va chercher les bouteilles en plastique, je ne sais où, dans la réserve, il pourrait remplir une carafe d'eau, quoi.
Bien sûr.
On a, voilà. Ça, c'est vraiment... Mais bon, c'est le béaba. Hein.
Et même, d'ailleurs, les grandes bouteilles d'eau, le scandale écologique, c'est le transport. C'est les camions, c'est pas
oui,
les bouteilles
bien sûr, mais l'eau du
pire,
robinet, elle est très potable, à Paris, que je sache. Donc, voilà, c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, quoi. Donc, oui, mais ça, c'est les petites fainéantises, quoi. Après, il y a des problèmes, évidemment, beaucoup plus impactants, mais ça dénote quand même... On n'est même pas capable de faire ça, quoi. On se discipline même pas pour faire ça. C'est quand même un peu embêtant.
C'était le jeune Stevie Wonder, Beyond the Sea.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Isabelle Autissier, qui a sorti récemment un roman d'anticipation qui parle du déni climatique, Le naufrage de Venise. Je rappelle évidemment que Isabelle Autissier, vous êtes la première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire. Alors c'est vrai, c'était il y a 30 ans, mais vous n'avez pas fait que ça depuis. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre carrière de navigatrice. Et notamment sur le rapport à la contemplation et à la beauté. Parce que il me semble qu'on ne dit pas assez aux gens que peut-être ce qui a à sauver, c'est la beauté du monde. C'est la beauté d'une nature qui est follement riche. Même l'organisation du corps humain rappelle cette folle beauté de la nature. Et j'ai lu un témoignage très émouvant de vous, où vous parlez d'une expérience qui était d'ailleurs dans votre premier tour du monde en solitaire, où vous avez assisté à un vol d'albatros qui utilise les courants d'air créés par la houle pour se propulser et qui vole sans battre des ailes. Et je pense que quand on a des moments magiques comme ça, presque on pourrait les donner à voir aux jeunes pour qu'ils prennent la mesure, et puis même aux adultes, hein, pour comprendre la mesure de finalement du miracle qu'il y a à préserver. Est-ce qu'on peut pas passer aussi par ça, le plaisir et la beauté, pour sortir du déni ?
Évidemment, évidemment, parce que ce qui est beau et ce qui nous fait plaisir, on l'aime, et ce qu'on aime, on le défend. Voilà, on aime sa famille, on défend sa famille. Voilà. Donc je pense que c'est un ressort puissant et c'est aussi ce que j'essaye de passer à travers mes écrits. Bon, là, c'est vrai que le naufrage de Venise, il y a un côté un peu tragique, mais il y a, je pense que, par exemple, quand je parle de la lagune, j'essaye aussi de montrer la grande beauté de cette étendue. Et puis c'est vrai que moi, j'ai cette chance. Mais la beauté, on peut la trouver à plein d'endroits. On n'est pas obligé d'aller au Cap Horn. Hein.
Mais quand même, revenons aux albatros. Est-ce que vous pouvez nous les décrire et essayer de nous faire éprouver ce que vous pouvez ressentir en pleine mer, toute seule, quand vous avez ces majestueux oiseaux dont parlait Baudelaire, qui soudain viennent vous dire bonjour?
Bah, d'abord, c'est le plus gros oiseau marin. C'est un très gros oiseau dont l'envergure peut atteindre presque 4 mètres pour les plus
grands.
Donc
ça pourrait faire peur, d'ailleurs.
Oui, enfin, en même temps, ils sont dans l'immensité, puisque quand même, une des caractéristiques de la haute mer, c'est qu'on est dans l'immensité du ciel, dans l'immensité de la mer, et on est nous, une espèce de tout petit point quelque part dans cette espèce de grand environnement. Et ces oiseaux, effectivement, c'est très poétique. Ils sont souvent des fois à deux ou à trois, et ils volent ensemble de la même manière, et donc ils vont utiliser ces grandes houles des mers du sud qui sont souvent des vagues hautes de plusieurs mètres, pas toujours dangereuses, hein, parfois, mais pas toujours. Et en fait, ces vagues poussent un courant d'air devant elles. Et l'oiseau, lui, il a intégré ça. Donc, il plane. En planant, il descend. C'est ce qu'on appelle le coefficient de finesse quand on est technique. À un moment donné, il s'arrange pour effleurer la mer alors qu'il y a cette houle qui arrive. Et donc, cette houle va lui donner une espèce de poussée aérienne qui va lui permettre de remonter comme ça, et on a l'impression, et comme il bat pas des ailes, on se demande comment il tient en l'air, quoi. Il y a un côté un peu magique, et puis oui, ils sont des grands, beaux oiseaux, donc quand on s'intéresse un peu à eux, on sait qu'ils vivent en mer, sauf pendant la courte période de la reproduction, mais sinon, ce sont des oiseaux qui sont en mer en permanence, et pour eux, les grands vents qui nous angoissent un peu, alors eux, ils sont parfaitement à l'aise, et j'aime ça aussi, j'aime bien voir un phoque qui se prélasse sur la banquise alors que moi j'ai 3 polaires, quoi. Ouais. Et je me dis dans la nature aussi il y a aussi cette adaptabilité, cette richesse, cette profusion, qui est quelque chose qui à la fois intellectuellement mais même tout simplement quand on le regarde est absolument magnifique.
C'est aussi une expérience de l'humilité finalement.
Ah ben oui, parce que là c'est sûr qu'on n'est même pas les pêcheurs du trait de crayon sur une carte, quoi. Et en fait c'est ça que j'aime bien aussi dans la démarche du marin. La démarche du marin, s'il veut à peu près réussir à survivre, c'est qu'il est amené à regarder, à comprendre et à s'adapter. C'est-à-dire que moi, en mer, je vais jamais en ligne droite. Mais je regarde la météo, j'essaye de regarder les nuages, de comprendre ce qui se passe, ce qui va arriver comme vent demain ou après-demain. Et puis, je vais peut-être m'écarter beaucoup de mon but parce que je vais aller chercher un flux de vent favorable ou m'écarter du mauvais temps ou voilà. Donc, je vais jouer avec mon environnement. Je vais utiliser
observer,
mon environnement.
Ouais, beaucoup.
Sans l'impacter du tout. Parce que j'adore cette image aussi. Quand je passe avec mon bateau, derrière moi, le sillage se referme. Personne ne sait que je suis passé là.
C'est beau, comme
image. Et j'aime bien cette image. Quoi.
Vous êtes en pleine mer, vous êtes dans la solitude. Bon, après, vous avez arrêté les courses en solitude, après notamment 2 gros naufrages, on va en parler après. Vous êtes seul, vous diriez que vous vous écoutez davantage vous-même ou vous écoutez davantage la mer?
Je pense que d'abord, je suis bluffée par cet environnement. Vous savez, quand vous avez la chance, par exemple, qu'il fasse une belle nuit étoilée, et que vous regardez, vous levez la tête, vous êtes toute seule en mer, et vous levez la tête, vous avez tout le cosmos, hein, y a pas de lumière parasite, et vous avez les étoiles partout, et puis là, vous avez un vrai vertige, quand même. Vous vous dites que la Terre, mais c'est une chure de mouche, même pas, quoi. C'est un truc de rien du tout, dans ce cosmos dont on voit pas les limites. Et ça, ça file un vrai frisson, quoi. C'est quelque chose de fort. Et donc, à la fois, on se sent tout petit, et à la fois, on se dit, moi, je peux le penser. Et ça, c'est un peu magique. C'est la magie d'Homo sapiens. Ouais. C'est que je peux penser à ça quand je regarde les étoiles.
Mais ce qui est dingue dans ce que vous dites, c'est que vous montrez qu'il y a un rapport entre cette présence au monde, dans l'immensité, cette humilité, et en même temps la conscience par laquelle l'homme peut peut-être quelque part s'élever au-dessus et devenir responsable. Mais là, on a une dissociation aujourd'hui. C'est qu'on a, une conscience, et finalement, on ne fait pas le minimum de ce qu'on pourrait faire pour préserver ça.
Bah oui, ce qui est un peu, ce qui revient à se tirer une balle dans le pied, pour parler vulgairement, hein, c'est-à-dire que on s'est effectivement complètement dissocié et donc on ne voit plus. On a plus cette empathie aussi pour la nature, cette connaissance qui pendant des siècles et des générations a été quasiment intuitive parce que tout le monde vivait. À la ferme ou je sais pas où, mais en tout cas proche de la nature, quoi, qu'on a quasiment plus. Demandez aux gamins aujourd'hui, ils font à peine la différence entre un merle et un corbeau, quoi.
Alors, je vais vous poser une question un peu bizarre. Est-ce que vous croyez qu'on ne s'aime pas assez en tant qu'espèce? Je précise ma question. Parce qu'en général, on interprète le délit climatique et écologique comme le résultat de l'individualisme. Donc on dit, voilà, l'homme individuel, l'homme moderne, il s'aime tellement et tellement narcissique qu'il pense pas aux générations d'après, et il pense pas à la nature, il a oublié qu'il habitait le monde. Mais on pourrait voir les choses autrement. En disant que cette espèce de fascination pour le post-humain, pour la technologie, pour le cyborg que nous sommes en train de devenir, elle serait liée à une sorte de désamour que nous aurions pour nous-mêmes en tant que simples humains, habitant la nature comme les animaux, et que ceci expliquerait qu'on ne soit pas capable de rester émerveillé comme vous l'êtes, et au fond de préserver la nature, le vivant, tout simplement.
Oui, alors c'est peut-être ça, ou est-ce que c'est pas tout simplement, oui, un espèce de narcissisme, et aussi une façon de lutter contre la mort, quand on pense que... Vous voyez, cette espèce de mouvement transhumaniste où les gens vous disent qu'ils vont vaincre la mort, qu'ils vont vaincre la maladie.
Bien sûr, ouais. C'est le manque d'humilité total.
Qu'on va aller habiter dans des planètes X ou Y, ce serait tellement dommage quand même. Parce que la planète Terre, elle est quand même sacrément incroyable et belle. Et même nous, en tant qu'humains, moi, ça me ferait de la peine qu'on disparaisse parce qu'on est quand même une espèce... plutôt intéressante et plutôt marrante, quoi. Donc, et puis on arrive aussi à créer des choses qui sont exceptionnelles. Donc oui, c'est.
Mais probablement, tout dépend du rapport à la peur de la mort qu'on a. Il y a des situations où la peur de la mort, elle nous rend vivants, conscients, responsables, créatifs. D'autres situations où précisément elle nous paralyse. Je vous propose, pour mesurer cette distinction, d'entendre un extrait d'Alain Bombard que vous devez bien connaître.
Au début, je me suis très bien porté. Et puis tout de même, peu à peu, j'ai commencé à m'affaiblir beaucoup. Et j'ai commencé, et je raconte cette petite histoire parce qu'elle est symptomatique, à avoir une petite éruption très douloureuse. Et j'avais très peur que ça se transforme en une furonculose fessière qui m'aurait empêché de m'asseoir. Et alors j'avais un petit coussin que je gonflais et qui servait à protéger mes arrières. Et un jour, je fais un faux mouvement et le coussin part à la traîne. Quand je m'en aperçois, il était à environ 600 mètres derrière moi. Alors je décide d'aller le chercher, je jette dans l'eau mon ancre flottante. Je jetais dans l'eau un petit parachute qui s'ouvrait sous l'eau, sous l'effet de la traction du vent. Le bateau s'arrête, parachute ouvert sous l'eau, je pars à la nage, j'arrive au coussin, je suis assez bon nageur, 600 mètres aller, 600 mètres retour ne sont pas pour me faire peur. J'arrive au coussin, je me retourne, oh horreur, le bateau se sauvait. Une vague en déferlant avait roulé le parachute, l'avait mis en torche et le bateau filait poursé par le vent. J'ai lâché le coussin et j'ai nagé plus vite que j'ai jamais nagé de ma vie. Combien de temps, j'en sais rien. Entre 1 heure et 3 heures. Ça a dû durer environ, je pense, 1 heure et demie à 2 heures, d'après le mouvement du soleil à l'horizon. On m'a dit, vous avez dû voir votre vie défiler sous vos yeux. Non. J'ai nagé en répétant sans arrêt le mot de Cambronne et en me disant, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, au bout de ce temps indéterminé, une vague miséricordieuse a donné un à-coup au radeau. Le parachute s'est rouvert et j'ai pu rattraper le radeau. Inutile de vous dire que ça m'a guéri pour un certain temps de prendre des bains au milieu de l'Atlantique. D'autant que, il y avait tout de même les voisins, il y avait les requins, qui étaient presque quotidiens. Au début, j'avais eu très peur. Et puis ensuite, j'ai appris cordialement à les mépriser, car les requins sont des pauvres types.
Incroyable histoire, quand même. Hein,
ouais, vous la connaissiez?
Non, je la connaissais pas. Non.
Vous avez vous-même vécu deux gros naufrages. Un en 95, vous avez été récupéré au bout de 4 jours par un hélicoptère des forces royales australiennes. Un autre en 99, vous avez chaviré, vous avez finalement été sauvé par votre ami Giovanni Soldini. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là et au fond, à quoi on tient, quoi, à quoi ça tient?
Alors, moi, je peux vraiment parler que pour moi, et je crois que c'est une expérience profondément individuelle. Et moi, j'étais dans des conditions particulières. Parce que moi, je décide d'aller toute seule dans les mers du Sud, donc je me prépare avant. Et entre autres, dans la préparation, c'est là qu'on revient peut-être un peu au déni. Oui. Je suis pas du tout dans le déni. C'est-à-dire que j'envisage toutes les horreurs possibles et imaginables pour essayer d'être la plus prête possible. Donc, non seulement j'ai éventuellement quelques petites techniques qui vont m'aider, que j'ai mises au point, mais surtout j'ai mentalisé des situations complexes comme ça. Ouais. Et donc, je suis pas complètement
prise au dépourvu, quoi.
Ouais, ouais.
Vous saviez que ça pouvait arriver,
ouais,
en fait.
Qui est quand même un élément important de la réaction. Par contre, évidemment, j'analyse que ma situation est quand même très grave. Et là, c'est vraiment le coup des deux hémisphères. C'est-à-dire qu'il y a un hémisphère qui dit « Oh là 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 là, je vais me mettre à pleurer ou à crier, ou etc. » Et puis l'autre hémisphère qui dit « Le bateau est plein d'eau, tu prends un seau et tu le vides. » Et moi, j'ai plutôt tendance, est-ce que c'est ma formation d'ingénieur, j'en sais rien, j'ai plutôt tendance à écouter cet hémisphère-là, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai fait. Et on se rend compte à ce moment-là que tout ce qu'on fait, parce que une fois qu'on a vidé le bateau, après il faut faire ceci, il faut faire cela, enfin, que on est en train de mettre en route une mécanique mentale qui vous amène vers la sortie. En tout cas, qui vous fait vous focaliser sur le mieux, le plus, le on va s'en sortir, je vais m'en sortir. Et finalement, j'arrive à ne pas laisser prise
à l'angoisse,
parce que l'angoisse, elle me dit plutôt, tu vas mourir, tu peux t'asseoir par terre et te mettre à pleurer, parce que, en gros, c'est fini, quoi.
4 jours, c'est long.
4 jours, c'est long, mais c'est dire, le point où j'en étais arrivée, c'est qu'à la fin, je faisais des photos, et je me mettais en scène en faisant des photos. C'est-à-dire qu'à la fin, j'étais ce qu'on appelle dans notre jargon, je fonctionnais en mode dégradé. C'est-à-dire oui. Que, voilà, le bateau, je pouvais plus m'en servir, il pouvait plus, voilà, il n'y avait plus de mât, il n'y avait plus de gouvernail, il n'y avait plus machin, bon. Mais j'étais encore dedans et j'avais le sentiment, peut-être que je maîtrisais pas à 100%, mais voilà, j'avais le sentiment d'être toujours active.
C'est ça qui est intéressant.
Vers la sortie, quoi.
D'ailleurs, est-ce que ça ne nous donne pas un élément de réflexion aussi par rapport au déni? C'est que souvent, par rapport au péril écologique, climatique, quand on est dans le déni, en fait, on est peut-être paralysé par une forme d'angoisse qu'on ne veut pas s'admettre et qui fait qu'on fait rien. Mais moins on fait, et plus on est angoissé, en vérité. Et il y a un enseignement de la philosophie et de la psychologie qu'on oublie souvent de rappeler, c'est que agir, ça fait du bien. Même quand on obtient des toutes petites victoires.
Moi,
et finalement, c'est ça qu'ils vont raconter.
Mais j'en suis et je le vois tous les jours, parce que quand moi je discute beaucoup, par exemple, avec des jeunes, des tranches d'âge, qui sont des tranches d'âge très angoissées par tout ça. Hein,
bien sûr.
Ce qu'on appelle la solastalgie, etc. Enfin bon. Ouais. Et je vois bien que tous ceux qui se battent, ils sont inquiets,
mais ça va mieux.
Mais ils se battent. Et ça va mieux. Ils sont ensemble, déjà. Et ça, c'est évident, comme personne ne va s'en sortir tout seul. Mais déjà, se battre ensemble, c'est aussi partager les coups durs, les victoires. Et c'est donc aussi regarder de manière positive vers l'avenir. Se dire, OK, il y a des dangers, il y a des trucs qui ne vont pas, on ne peut pas rester sans rien faire. Mais c'est quand même se dire, la sortie, elle est par là. Mmh. Et ça, c'est hyper important.
Un voyage de 1000 lieues commence par un pas, disait Lao Tzu.
Arrête tes conneries, viens jouer avec moi. Arrête tes soucis, n'existe pas. Tout est dans la tête, tu le répètes. Fais-toi couper la tête, fais-toi couper la tête. Tout est dans la tête, c'est n'importe quoi. Et l'intestin, et le petit doigt. Tout est dans la tête, donc aux étoiles. Donc aux étoiles, c'est déjà pas mal. Regarde un peu l'herbe qui pousse. Le temps de le dire, elle grandit, elle pousse.
Quinze, sept.
Arrête tes conneries, t'as pas un cancer.
C'était clair, tout est dans la tête.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Isabelle Autissier, navigatrice, première femme à avoir réussi le tour du monde en solitaire, qui nous racontait, avant la pause musicale, ces deux naufrages, et on avait entendu cette belle sagesse de l'action. Voilà, j'avais évoqué cette phrase de Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence par un pas, et c'est vrai que ça peut nous faire du bien de faire des petits pas pour essayer peu à peu de sortir du déni. Alors venons-en à votre dernier roman, c'est votre cinquième, il porte pour titre Le naufrage de Venise, et vous racontez, donc c'est un roman d'anticipation, que ça y est, Venise a été engloutie par les eaux, une seule vague l'a engloutie, celle-là elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a réduit la magnificence de Venise à néant, et ce qui est intéressant, c'est la famille qui en fait est réinterprétée rétroactivement. Avec tous les conflits qu'on peut connaître dans nos familles, puisqu'il y a le père, la mère, la fille. Évidemment, le père, c'est un peu le dédale que j'ai évoqué au début. Il s'appelle Guido, je sais pas comment on dit, Guido. Et lui, il ressemble beaucoup à Dédale, c'est-à-dire qu'il c'est un entrepreneur, il veut se bouger, il pense qu'on trouvera des solutions, il est optimiste, il est technophile, en fait. Il y a sa femme, et puis il y a la fille qui est une militante un peu écolo, on va dire presque une Khmer vert, pourrait-on dire. Et je vais, si vous voulez bien, lire un passage. Parce qu'il me semble que dans ce passage, on voit ce que c'est que le déni dans l'esprit même de Guido, donc votre dédale à vous. Alors, donc il faut comprendre que il se souvient, mais c'est trop tard, de ce qu'il disait avant le drame, en disant « on va sauver Venise, comment on fait ?» Et donc je lis, Isabelle Autissier, un extrait du naufrage de Venise aux éditions Stock. Guido, donc, il en chasse une machinalement de son visage et repense soudain à la fameuse étude « Sauver Venise ». Finalement, l'analyse était juste. Je précise, auparavant, il se moquait de cette analyse. Finalement, l'analyse était juste. Il avait eu sous les yeux le faisceau de preuves détaillées, imparables, qui soulignaient les atteintes, les dangers et l'aggravation des problèmes non traités. Il se souvenait de Livio Sciarzi, plaidant jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Léa aussi avait traité son père d'imbécile, donc Léa c'est la fille évidemment, et d'autiste un nombre incalculable de fois. De doctes études internationales avaient repris et développé les arguments. L'enfoncement de la ville, la fragilisation des soubassements, l'erreur de faire reposer toute la politique de protection sur le barrage. Dans un coin de son cerveau, il avait admis certaines choses, mais son hémisphère gauche et son hémisphère droit ne se parlaient sans doute pas assez. N'est-ce pas là, Isabelle Autissier, une définition du déni ?
Bah oui, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que il ne le ressent pas. Il a lu la belle étude, il a vu les chiffres et tout, mais ça ne lui parle pas effectivement, ça ne lui parle pas dans ses valeurs fondamentales, voilà. Ça reste quelque chose auquel il ne peut pas adhérer.
Alors ce qui est très touchant, c'est que Venise est engloutie par les eaux sur lesquels vous avez tant navigué. Donc il y a un rapport à la mer particulier, et en même temps, ce père, donc Guido, qui est celui du déni, vous en dressez un portrait malgré tout très tendre, et on s'attache à ces personnages. Comme si finalement, vous étiez beaucoup moins sévère avec Guido que sa propre fille Léa.
Oui, bien sûr, mais parce que Guido, c'est pas un salaud, des Guido, on en connaît partout. C'est des gens qui veulent le bonheur de l'humanité, ouais. Sauf que ils n'analysent le bonheur de l'humanité que à l'once d'un seul critère, qui est la richesse. Donc lui, il veut...
La croissance, quoi.
La croissance, du PIB, des richesses, des touristes, des jobs, du pouvoir d'achat. Voilà, ça lui paraît... et il fait ça avec la meilleure volonté du monde, mais bonne volonté du monde. Sauf que il n'arrive pas à mentaliser, par exemple, les limites planétaires... Par exemple, les questions dont je parlais tout à l'heure, hein, la physique et la chimie, quelque part. Ouais. Pour lui, ça sort de son champ d'analyse, quoi. Mais de fait, les gens qu'on connaît comme ça, qui n'ont que le critère de croissance à la bouche, bon, il y en a qui sont machiavéliques et retors, mais ils le sont
oui,
pas tous.
Oui, il faut quand même dire que dans les différentes figures du déni, pour l'instant, on a été gentil. Il y a quand même aussi le salaud.
Bien sûr.
Il y a le faux déni du salaud qui n'est pas dans le déni, mais que ça arrange de prendre ce qu'il y a à prendre avant l'apocalypse.
Absolument.
Ces gens existent, ces entreprises existent, ces prédateurs existent quand même.
Évidemment, voilà. Comme les prédateurs existent dans tous les domaines, les gens qui se disent, bon, en gros, un peu après moi le déluge, et puis les gens qui imaginent que s'ils sont très riches, ils pourront se sauver eux.
Bien sûr.
Alors que,
ils pourront aller vivre dans un paradis sur Mars, dans une bulle dans l'espace, bien sûr.
On l'a vu, par exemple, pendant la pandémie, des gens qui achetaient très cher des passeports dans de ces quatre pays, ou qui, maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui vont acheter des terrains ou des maisons dans le Grand Nord, parce qu'ils se disent, ça va se réchauffer, donc moi, j'aurai... Sauf qu'ils n'imaginent pas que s'il y a des désordres planétaires, il y en aura aussi là-bas, bien sûr.
Bien sûr. Est-ce que vous êtes pour la décroissance ?
Pour une certaine forme de décroissance, c'est-à-dire la décroissance parce qu'on est dans l'excès, donc de la consommation matérielle, oui, je crois qu'on n'a pas le choix. D'abord, on fait beaucoup de gaspillage, et puis aujourd'hui, on est dans cette espèce de spirale où il faut changer de voiture tous les 3 ou 4 ans, d'ordinateur tous les 2 ans, de téléphone tous les 6 mois, ce qui est complètement ridicule, hein, qui nous fait pas beaucoup de bonheur en plus, hein, si ce n'est une espèce de statut social. Donc là, oui, il faut décroître. Mais la décroissance de cette surconsommation matérielle ne veut évidemment pas dire la décroissance du bonheur et même pas la décroissance des actions de l'humanité. C'est-à-dire, je peux me transporter et bouger, par exemple, ce qui est un besoin assez naturel chez l'être humain, sans forcément changer de voiture, encore une fois, tous les 3 ans, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut arriver à dissocier la fonction de l'objet auquel on l'a assigné dans nos sociétés.
Qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est une question vraiment compliquée et dure, que je me suis souvent posée, de ces jeunes qui ont une telle conscience du péril écologique et climatique qu'ils ne veulent plus faire d'enfants ?
Oui, moi j'en connais pas mal. Alors d'un côté, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils sont dans une angoisse et quand on fait des enfants, on ne peut pas les faire dans l'angoisse, il faut les faire dans l'idée que on va faire des enfants qui seront heureux, hein, qu'on va pas les plonger en pleine donc je le comprends. Moi j'ai rien à leur dire, je vais pas essayer de leur faire la morale en leur disant mais tu sais, tu devrais être un peu optimiste et puis tout ça va s'arranger.
Oui, mais à quoi bon essayer de sauver le monde si c'est pour qu'il y ait plus personne pour l'habiter?
Bah justement,
je comprends pas la logique.
Non mais c'est parce que on va sauver le monde que on aura envie de l'habiter. C'est pas très très grave si on fait un peu moins de gosses nous dans nos pays riches. Hein.
Ouais.
Toute façon, des gosses sur la planète, il y en a encore beaucoup. Donc s'il y a un problème de ressources, c'est pas la ressource humaine. Je pense que et quelque part tant mieux.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même c'est très angoissant parce qu'on se dit finalement je commence par plus prendre l'avion, puis je prends plus de voiture, puis je fais plus d'enfants, puis je m'autorise plus à manger.
Finalement, le risque, c'est
que je ne vive plus.
Mais justement, faut pas le prendre comme ça. Encore une fois, pas prendre l'avion, ça veut peut-être pas dire ne jamais prendre l'avion. Ouais. Ça veut dire mentalement arrêter d'aller faire un week-end à Venise, par exemple.
Bien sûr. On peut prendre le train, en tout cas.
Voilà, ou prendre le train, ou y aller autrement. Changer les allocations de temps.
Ouais.
Au lieu de passer plus de temps devant les écrans, on va peut-être passer plus de temps à faire un voyage pour y aller plus longtemps.
Mais c'est peut-être la question du plaisir qu'il faudrait remettre sur le centre de la table. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai l'impression que si on fait un week-end à Venise ou à Berlin une fois tous les 2 ans et que c'est son plaisir et que c'est mieux de prendre l'avion pour des raisons personnelles, à la limite pourquoi pas. Le problème c'est quand on va prendre l'avion pour aller bosser et qu'il n'y a même pas de plaisir.
Je trouve aussi personnellement qu'aller passer 2 jours à Venise c'est une connerie. Venise mérite bien plus que 2 jours. Donc, peut-être qu'il faut y aller qu'une fois tous les 10 ans, mais y aller 15 jours. Parce que là, on va vivre avec les gens, on va se balader à pied dans cette ville, on va pas voir que la place Saint-Marc et les 3 églises qu'il faut voir. Enfin voilà, on va rentrer dans une intimité. Franchement, la seule chose qu'on est vraiment, nous les humains, c'est du temps. Entre la naissance et la mort. Là, on a une allocation. Moi, j'essaye de me dire, je vais passer du temps avec les gens que j'aime, avec les lieux que j'aime, mais je vais vraiment y passer du temps.
Bien sûr, du temps sur mon bateau.
Et donc, c'est une réallocation complète de notre façon de vivre, effectivement.
On a l'impression, d'ailleurs, pour revenir à Venise, que vous faites c'est particulier, cette ville, comme un laboratoire, quoi, de ce que pourrait être une restauration environnementale intelligente. Est-ce que vous pouvez développer un peu ?
Oui, ce qu'on a beaucoup oublié, c'est la lagune. Il n'y a pas de Venise sans lagune. C'est grâce à la lagune que Venise est restée une ville qui n'a pas été brûlée 15 fois. Et cette lagune, elle est vivante. C'est un organisme vivant. Il y a un tas de plantes, d'animaux, de courants, de sédiments, des tas de choses. Et ça, c'est quelque chose que les hommes ont accompagné pendant des siècles. Pendant très longtemps, les modifications qui ont été faites à la lagune étaient très ténues, on y allait doucement, on faisait attention. À partir du XXe siècle, quand on arrive avec l'artillerie lourde du développement, on va creuser des grands canaux, et puis là maintenant on met des portes à la lagune, oui. Et puis on fait comme si c'était un espace mort. Un peu comme on le fait avec le sol, avec la terre. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a accompagné la terre, on a accompagné le climat, on a accompagné les vers de terre, les oiseaux. Et puis un jour, on a décidé que la terre c'était un substrat. Et que là, on pouvait y aller à coup de pesticides, à coup d'engrais, à coup de machin. C'est là qu'on se trompe. Donc, à un moment donné, restaurer la lagune, restaurer ses flux, essayer de calmer un peu le jeu, ça va participer au fait que Venise se défendra un peu mieux. Maintenant, malheureusement, la ville, elle est quand même un peu mal barrée aujourd'hui, au point où on en est aujourd'hui. Donc, il va y avoir quand même des graves difficultés. La solution de mettre le barrage, c'est effectivement une solution pire que tout, puisque dans quelques dizaines d'années, il faudra que le barrage soit fermé tout le temps. Et là, ça va plus être une lagune, ça va être je sais pas quoi.
On entend dans certains discours parler de la disparition de Venise, vous y croyez ?
Écoutez, je viens à peine d'acheter une maison juste à côté, j'espère que non. On entend dire que la marée haute a déjà eu lieu en 1966 et que donc ce n'est pas un problème climatique. Mais en 1966, c'était exceptionnel, alors que maintenant, cela se répète chaque année et ça a l'air toujours plus important.
Eh ben oui, c'est vrai.
Et on ne voit toujours pas.
Ça a à peu près été multiplié par 10 depuis un siècle à peu près. Hein. Parce que Venise s'enfonce et que le niveau de la mer monte. Et qu'en plus, comme la lagune n'a plus ce côté éponge qu'elle avait avant, tout est plus violent, l'eau monte plus vite, tout se passe plus mal en quelque sorte. Qu'on a fait un peu le contraire. Donc elle a raison cette dame. C'est pas qu'il n'y a jamais eu d'aqua alta, mais il y en aura de plus en plus. C'est comme les canicules, c'est pas qu'il n'y en a jamais eu dans le passé, c'est que maintenant on va en avoir 2 ou 3 par an et ça va commencer à être compliqué.
Il faudrait qu'on puisse enfin ouvrir les yeux, sortir du déni. Vous avez joliment parlé des sols, de la terre. Ça me rappelle quand même que le mot humilité, donc ce qui nous manque justement, parce qu'on a l'arrogance d'un dédale, ça veut dire le rapport au sol, humus, de humilité vient de humus, et c'est le rapport au sol. L'humilité, c'est d'avoir les pieds sur terre, même si on a beaucoup navigué sur la mer aussi. Je voudrais vous poser une autre question. Est-ce que vous croyez, je dirais en règle générale, je pose la question sur le plan climatique, mais aussi sur le plan de l'amour, de la politique, qu'il existe des points de non-retour ?
Alors, sur le plan de la nature, oui. Il y a des points de non-retour. Il y a des moments où il y a des changements qui se font. Par exemple, quand une espèce disparaît, elle a disparu, c'est plié. Si jamais il reste quelques spécimens dans les coins, on peut rêver de les protéger, de les faire revenir, mais quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Sur d'autres domaines, je ne suis pas sûr, parce que vous parliez de l'amour ou de la politique, ou qui sont des constructions, pour le coup, purement humaines. Là, évidemment, il y a des transformations. Bien sûr, on va pas revenir, je sais pas moi, à la politique romaine ou que sais-je. Là, il y a des transformations, mais par contre, on accumule les choses d'avant. On accumule les, comment dire, l'histoire nous nourrit, qu'on le veuille ou non. L'histoire contribue, reste présente dans nos vies. Par exemple, les Grecs et les Romains, d'une certaine manière, restent très présents dans nos vies, même si on s'en rend pas compte tous les jours. Donc on est plus sur des évolutions, sur des changements, qui sont un peu d'ailleurs le propre de l'homme, je pense.
Oui, c'est joli ce que vous dites, parce que quand on parle de point de non-retour, on pense souvent les choses sur un mode de linéarité. Mais en fait, peut-être qu'on peut voir ça aussi comme une circularité. Donc il y a de l'espoir. Quand ça fait penser à cette chanson de Brel, très connue, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de point de non-retour. D'ailleurs, dans le dernier rapport du GIEC, il y a quand même cette idée, j'ai entendu Jean-Jouzel en parler, il dit non, voilà, il n'y a pas de point de non-retour, on peut encore agir, on peut encore prendre son avenir en main. Dernière question peut-être, qu'est-ce que vous pensez de l'expression « écologie punitive » ?
Alors je déteste cette expression, je la trouve complètement imbécile en fait. C'est pas l'écologie qui est punitif. C'est pas l'écologie qui nous amène dans le mur. C'est pas l'écologie qui va nous faire souffrir. L'écologie, c'est quand même c'est prendre soin de ce bien extraordinaire qui est cette planète et sa vie, etc. Donc c'est prendre soin de nous-mêmes. Donc évidemment, vive l'écologie, mais on confond le fait de devoir transformer nos modes de vie. On part du principe que c'est forcément punitif, que si on peut pas changer de voiture tous les 3 ans, ça va être super punitif. Et on confond cette évolution de nos valeurs sociales, avec une punition, ce qui est, à mon avis, parfaitement imbécile.
On a bien compris. Isabelle Autissier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. On vous laisse repartir vers les mers froides et contempler les albatros. Souvenez-vous, vastes oiseaux des mers, exilés sur le sol au milieu des huées. Ces ailes de géants l'empêchent de marcher. Pour vous remercier, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a bien entendu ce matin. Alors évidemment, une philosophie contemplative, mais responsable. Une philosophie, j'ai envie de dire spinoziste. Souvenez-vous de cette phrase, toute votre parcours, tous vos voyages racontent ça. L'homme n'est pas un empire dans l'empire, voilà ce que disait Spinoza. Je dirais aussi une philosophie de l'observation, une philosophie de l'expérience. C'est exactement ainsi qu'Aristote, vous devez connaître cette définition, définissait le capitaine de navire, comme le grand médecin. Il dit c'est quelqu'un qui se fie à son expérience bien davantage qu'à son savoir, qui ouvre les yeux, qui observe et qui s'intéresse aux cas particuliers beaucoup plus qu'aux grandes généralités. Isabelle Autissier, merci beaucoup. Je recommande votre dernier roman, Le naufrage de Venise, aux éditions Stock. Cette émission a été préparée et très bien préparée, merci beaucoup, par Vera Louderi et Fabrice Rivaud. Elle a été réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Benjamin Troussin. Quant à moi, je vous dis à demain matin sous le soleil de Platon.